Cube Radio.
Surprise et retrouvailles ratées. La zone payante revient sur la semaine 1 de la NFL. Le vrai visage de Bernadette ou réaction exagérée? La zone payante se prononce. Est-ce la fin de deux Québécois les plus en vue dans la NFL? Sacha Gavamy, l'agent de Laurent Duvernay-Tardy, et Anthony Auclair est avec nous pour en parler. Les Steelers peuvent-ils survivre sans TJ Watt? Les Cowboys peuvent-ils gagner sans Dak Prescott? C'est le retour des questions des auditeurs à la zone payante. Les Buccaneers de Tom Brady n'ont toujours pas battu les Saints. Est-ce que c'est la fin de cette malédiction alors que la semaine 2 commence dans la NFL? Tout cela et bien plus dans ce nouvel épisode de la Zone payante. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de la Zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, je suis en compagnie de l'expert football, journaliste au Journal de Montréal et de Québec, Stéphane Cadorette. Steph, salut!
Hey, salut! Ça va bien? Les prédictions n'ont pas été trop dures?
Et on va en parler plus tard!
Oh, boy, ça commence rough!
Ça commence rough! Et on va commencer, si tu le veux bien, Stéphane, avec un invité de marque, parce que on a la chance d'avoir avec nous l'agent de Laurent Duvernay-Tardif et Anthony Auclair. On va commencer avec lui. Alors, on a le plaisir de recevoir à la zone payante l'agent de joueur sans doute le plus en vue pour nos joueurs québécois qui se rendent dans la NFL. C'est Sacha Gavamy. Bonjour Sacha, ça va bien?
Bonjour, ça va bien vous autres?
Ben oui, très bien.
Très bien.
Merci d'être avec nous Sacha, c'est vraiment plaisant parce qu'en début de saison, il y a plusieurs choses qu'on se pose comme questions pour les Québécois. Mais avant d'y aller, on va te passer un petit peu les mêmes questions qu'on pose à nos invités parce qu'on aime un peu connaître d'où origine le plaisir ou le fan de football dans nos invités. Puis c'est drôle, la première question qu'on pose souvent, puis ça débouche sur toutes sortes d'autres avenues, mais on demande souvent à nos invités, quel est ton plus vieux souvenir de football?
Moi, c'est peut-être très ordinaire comme souvenir, mais je m'en souviens, j'ai commencé à regarder le football. J'avais peut-être 9 ans, 10 ans. Puis mes parents, c'était pas des fans de football nécessairement, là, du tout, en fait. Ils suivaient le hockey, mais à part ça, pas vraiment autre chose. Puis je me rappelle écouter le football à Fox à l'époque sur le câble. Puis je me rappelle, j'ai regardé un match, puis c'était les Chiefs qui jouaient, drôlement. Puis c'était Tony Gonzalez qui était allié rapproché. Puis je me rappelle, ouais, il est bon, je suis pas devenu fan des Chiefs après ça par contre, mais je me rappelle ce souvenir-là. Puis après ça, j'ai vraiment commencé à suivre le football davantage, sixième année, secondaire 1. Puis là, je suis devenu fan des Chargers grâce à LaDainian Tomlinson. Puis c'est
ah,
là,
ben oui.
Mon amour pour le football a commencé. Puis je suis devenu grand fan, je suivais ça religieusement, encore aujourd'hui évidemment. Puis ça a commencé juste étant... Moi, j'étais un fan de sport très jeune. J'écoutais tous les sports, Sport 30, Sport Center, constamment. Puis le soir, à l'époque, il n'y avait pas de streaming, quoi que ce soit. Fait que tu écoutais les matchs qui passaient au câble, évidemment. Puis le dimanche, ben il y avait du football. Fait que à partir de 1h, j'écoutais le football, le Sunday NFL Countdown le matin. Puis
ça te permet... Même sans tes parents, là. Parents qui t'ont amené, t'étais vraiment tout seul.
Ouais, puis dans mon entourage, ça suivait pas le football, mais moi, j'étais un fan de sport. Fait que j'écoutais les expos à l'époque quand j'étais jeune. Après ça, le Canadien, évidemment. Dans la NBA, il y avait les Raptors puis les Grizzlies. Puis dans la NFL, c'était j'étais un peu pas vraiment une équipe en particulier au début. C'était vraiment juste les matchs qui passaient pour vraiment apprendre le sport puis m'intéresser au sport.
Mais je peux comprendre. Quand on avait la LaDainian Tomlinson dans notre pool, c'était facile de tomber en amour avec les Chargers. Tu sais, c'est...
Ouais.
Quel joueur!
Quand tu commences avec le foot de plus en plus, tu te dis ça me prendrait une équipe. Puis LT, c'est un joueur que j'aimais beaucoup son style, j'aimais beaucoup aussi la façon qu'il se comportait sur un terrain. C'est un travaillant, c'est un joueur quand même humble, jamais été dans les médias pour les mauvaises raisons. Puis il est resté fidèle à une équipe qu'au début, les Chargers, c'était pas fort, là. Tu sais, je dis, Drew Brees, s'était blessé à l'épaule. L'équipe connaissait de la difficulté. Il y a eu beaucoup des choix tôt dans le repêchage. Mais bon, je suis resté fidèle à eux pendant de nombreuses années. Puis, c'était vraiment Tomlinson qui m'a allumé sur les Chargers. Puis, sur le football en général, parce que quand t'as une appartenance avec une équipe, c'est plus facile après ça, je trouve, suivre la ligue puis de t'intéresser davantage.
Mais il y a une question qui nous brûle les lèvres, par contre, là.
Ouais.
Tu sais, on le sait, t'es l'agent de Laurent Duvernay-Tardif qui a joué de très belles années avec les Chiefs. Étais-tu déchiré à ce moment-là? Ils jouaient deux fois par année les uns contre les autres, là. Chargers-Chiefs, c'est toute une rivalité. J'imagine que ton cœur penchait pour les Chiefs pendant que Laurent était là à tout le moins, là.
Oui, oui. C'était... Disons que c'était une situation que je pouvais pas perdre. Dans le sens, tu sais, je souhaitais que, tu sais, Laurent puis les Chiefs gagnent, tu sais, puis à un moment donné, Ryan Hunter jouait pour les Chiefs, fait que j'avais deux clients avec les Chiefs, donc c'était facile de dire, bon, mais je veux que les Chiefs gagnent parce que, tu sais, je veux qu'ils aillent loin en série puis tout ça. Mais c'est arrivé, je sais pas si vous en souvenez, c'était un match du jeudi soir, il y a peut-être, j'ai l'impression de dire 3 ans, en 2019, je pense, peut-être l'année qu'ils ont gagné, ou 2018, puis les Chargers avaient gagné en overtime, en prolongation, puis j'avais texté Laurent après, j'ai dit dommage, mais avec un petit clin d'œil, tu sais, en disant c'est des choses qui arrivent. Puis il savait que j'étais un grand fan, puis il s'amusait à rire du stade des Chargers à San Diego à l'époque, quand il m'envoyait des photos du stade-là, il tombe en décrépitude, il dit tu devrais trouver un nouveau club, bref. Mais non, c'est évidemment quand les Chiefs, j'avais une appartenance avec mes clients. C'est sûr que c'était les Chiefs. À partir du moment que les clients sont plus là, l'allégeance quitte et on revient à nos racines.
Bon, mais parlons-en de tes clients, Sacha, parce que on faisait un peu le constat qu'il y avait peu de Québécois cette année dans la NFL. Là. C'est drôle, on est habitué à être gâtés puis à suivre tous nos Québécois. Là, on a seulement Benjamin Saint-Just qui est à Washington. C'est pas que les autres ont pas le talent pour jouer dans des équipes, mais certains aléas font en sorte qu'ils sont pas sur aucun club en ce moment. Commençons peut-être avec, justement, puisqu'on en parle, Laurent Duvernay-Tardif. Quelles sont les dernières nouvelles, puis quel est l'espoir de le revoir enfiler un chandail de la NFL un jour?
C'est une bonne question. La NFL, c'est pas juste une question de niveau de jeu puis de talent, c'est une question de timing. Puis, tu sais, je l'ai dit à quelques reprises, mais tu sais, ce printemps, j'avais des offres sur la table pour Laurent. Il y avait des équipes qui le voulaient, qui me couraient après un peu pour le signer en vue du camp d'entraînement. La résidence en médecine de Laurent faisait en sorte qu'il devait absolument commencer au mois de juillet. Donc, j'avais une offre très sérieuse d'une équipe quand même très bonne au mois de mai qui voulait avoir ses services. Mais malheureusement, on pouvait pas se commettre parce que la résidence devait commencer le 1er juillet puis ça avait un conflit avec le camp d'entraînement. Donc, on a expliqué ça à l'équipe puis l'équipe a dit qu'on resterait en contact. Mais évidemment, d'un bord comme de l'autre, faut que le timing soit bien. T'sais, on se rappelle l'année passée avec Laurent, avec les Chiefs. Laurent arrive au camp d'entraînement des Chiefs, ça se passe bien. Mais Trey Smith, le choix de 6e ronde, connaît un camp d'entraînement super, puis Laurent se blesse, perd le poste, Trey Smith prend la relève et il a gagné le poste, c'est un des meilleurs gardes à droite de la ligue depuis l'année dernière. Des fois, les choses, faut qu'ils tombent en place aussi. Est-ce que ça peut changer? Vous connaissez le football, les gars. T'sais, une fin de semaine, là, un dimanche peut tout changer, puis tout d'un coup, ça peut arriver, mais en ce moment, c'est trop tôt pour moi de savoir est-ce qu'il va avoir une opportunité ou pas. Je pense que l'important avec Laurent, c'est qu'il est serein avec l'idée qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais s'il y en a une autre, puis que l'équipe fait du sens, parce que c'est pas juste n'importe quelle équipe, faut que ça soit une situation qui fait du sens pour lui au stade où ce qui est rendu dans sa carrière.
Il retournerait pas pour les Jets.
Je dirais pas ça nécessairement, parce que je veux pas commencer à parler en mal de certaines équipes, mais je pense que, tu sais, Laurent, c'est quelqu'un qui veut gagner, qui veut aller loin, puis c'est une équipe qui a des chances de gagner à puis qui a un poste d'ouvert, puis qui a une opportunité pour lui, puis c'est un livre de jeu qui est adaptable à son style puis qui fait du sens, ben je pense qu'il considérait, mais en même temps, on part avec la prémisse qu'il n'y en aura pas. Mais s'il y en a, on va le regarder. T'sais.
Autant il est serein avec l'idée de plus jamais rejouer dans la NFL, autant il y a toujours de l'intérêt à se trouver une équipe où le contexte serait bon pour lui.
Exactement, c'est une bonne façon de le résumer. Exactement.
OK, bon, mais on est heureux de savoir qu'il n'a pas lancé de la serviette parce qu'on aimerait bien le revoir habillé dans la NFL.
Puis pour ce qui est, évidemment, on sait que tu représentes aussi Anthony Auclair. La nouvelle a été difficile probablement à encaisser, là, j'imagine. Libéré par les Texans, écoute, on se disait qu'il y avait peut-être une opportunité de le ramener. Il y a des technicalités, des fois, au football qui font que juste avant la saison, tu te libères un joueur, mais tu trouves un moyen de le ramener soit sur ton équipe de réserve, soit sur l'alignement régulier. Ça n'a pas été le cas. Les Texans ont eu l'opportunité de signer O.J. Howard. Je pense que ça a probablement contrecarré les plans avec Anthony. Qu'est-ce qu'il y en a maintenant? En bon français, là, pour résumer ça clairement, est-ce que le téléphone sonne pour Anthony?
Oui, le téléphone sonne. L'Anthony n'est pas 100% en santé actuellement. Si le Super Bowl était demain matin, je pense qu'il y aurait moyen de jouer. Mais le contexte dans lequel il s'est fait libérer, c'est quand même un contexte, entre guillemets, favorable pour nous. T'sais, Anthony a signé un contrat garanti l'année passée avec Houston en vue de cette saison. Donc, il est assuré de recevoir son plein salaire cette saison, qu'il joue ou qu'il joue pas. La réalité de la business du football est difficile, puis Texans ont pris une décision d'affaires que Anthony a été blessé durant le camp d'entraînement. Ils ont vu une opportunité de signer un autre allié rapproché qui cadrait dans leur système, qui était disponible. Ils l'ont fait, puis ils ont fait de la place pour, puis Anthony a écopé. Mais pour nous, il n'y a pas d'urgence de retourner sur un terrain tant et aussi longtemps que le genou n'est pas à 100%. On n'est pas loin. C'est pas une question de plusieurs mois. C'est une question, par contre, de se sentir confortable. Puis quand tu es dans une situation où ce que ton salaire il est sécurisé, ben tu peux te permettre de pas presser puis risquer ton corps. Des fois au football, les joueurs ils sont dans des situations où ils ont pas le choix vraiment de jouer s'ils veulent pour rester dans la ligue ou aller chercher un certain revenu. Puis pas qu'ils vont jouer pas en santé, mais ils vont dire exemple, on va mettre un brace. Ok, on va trouver des façons de contrecarrer ça. En ce sens, Anthony, la décision qu'on a prise c'était soyons patients. Avec le genou, quand Anthony va me donner le green light, ben là, je pourrais faire le suivi. Mais tu sais, à partir du moment qu'il s'est fait libérer, j'ai eu des appels de plusieurs équipes qui se demandaient qu'est-ce qui est arrivé, puis qui avaient bien aimé ce qu'il fait dans la ligue. Puis, mine de rien, Anthony, il y a quoi, 56 matchs en dessous de la cravate en saison régulière seulement, excluant les séries, un Super Bowl. C'est quand même quelqu'un qui a 5 saisons dans la NFL. C'est remarquable comme parcours, surtout issu d'une université canadienne. Donc, je pense, dans notre cas, c'est juste d'être patient, puis de ne pas nécessairement presser la chose. Puis quand au moment où Anthony sera 100% confortable avec le genou puis en santé, on pourra revisiter la chose et voir s'il y a des équipes encore intéressées ou pas, mais au moins on n'aura pas pressé pour risquer une blessure plus sérieuse puis dans le fond avoir des conséquences plus néfastes à long terme aussi pour.
Est-ce que la porte est fermée à Houston?
Pour être franc, j'ai pas eu d'autres discussions avec Houston depuis le lendemain qu'il s'est fait libérer, depuis la signature de O.J. Howard. Nous, on a laissé ça passer. Tu sais, au final, c'est une question d'opportunité puis de fit pour nous. Houston, c'était une super équipe l'année passée pour Anthony, dans le sens, il y avait une opportunité de voir du terrain, puis Anthony a gagné son poste puis a vu en moyenne 30% des jeux à l'offensive. Pour ceux qui suivent le football, un ailier rapproché avec le rôle d'Anthony qui joue 30% des jeux à l'offensive, c'est énorme. C'est un des meilleurs rôles que tu peux trouver dans la NFL. À partir du moment que Houston va chercher O.J. Howard, puis qu'ils ont Howard, Brown, puis Jordan, puis la recrue qu'ils ont repêché en 5e ou 6e ronde, qui est le 4e, ça commence à changer un peu la dynamique pour les ailiers rapprochés. Ça ferme pas la porte néanmoins, mais c'est pas nécessairement une situation où je dois prendre le téléphone, appeler les Texans, puis dire « Hey, avez-vous de la place pour Anthony? On veut revenir nécessairement, on va comparer nos options. » S'il y a d'autres options qui sont là puis qui font du sens, on va les considérer au même titre que si Houston arrive puis qu'ils ont une opportunité, on va le considérer aussi.
Sacha, je te relance juste deux secondes sur l'état de santé d'Anthony. Tu sais, tu dis c'est pas une question de mois, ça devrait se faire rapidement. On peut s'attendre à un horizon de quoi là à peu près?
C'est que c'est pas juste comme l'IRM est beau, on va y aller. C'est plus une question de feeling. Tu sais, puis ça, c'est Anthony qui m'a beaucoup appris là-dessus, puis il a raison. Il dit, comme je dis, s'il y avait un Super Bowl le matin, est-ce que je pourrais jouer? Probablement. Tu sais, mais est-ce que je serais en 100%? Probablement pas. Est-ce que, tu sais, faire des cuts sur un terrain sans brace, être capable de bouger librement, ça, c'est important quand tu joues au foot, parce qu'à partir du moment que tu réfléchis à tes mouvements, ben là, tu vas commencer à te poser des questions sur est-ce que je fais le bon mouvement, est-ce que je vais être correct, puis là c'est là que tu t'es pas où est-ce que tu veux être. Donc c'est dur pour moi de mettre un timeline. C'était pas une blessure qui était considérée comme season ending, excusez l'anglicisme, pas du tout, mais maintenant qu'on a un peu de temps, on va en profiter pour se mettre à 100%. Donc pour moi, c'est de suivre ça, c'est week to week, la semaine, on va regarder ça à chaque semaine, puis il y a du progrès continuellement, Anthony s'entraîne, fait que d'après moi, là, ça va être une situation qui est fluide, mais on va être capable de suivre ça de près.
On parle de Laurent Duvernay-Tardif, on parle d'Anthony Auclair. Tu es très intéressé, je présume, par d'autres talents qui proviendraient du Québec. On en connaît quelques-uns, mais est-ce que tu trouves que le Québec a un football en santé? Est-ce que tu vois des jeunes pousser, des gens qui pourraient frapper à la porte de la NFL?
Vraiment. Tu sais, on voit depuis quelques années, de plus en plus de Québécois aussi qui font le saut dans la NCAA. Donc, tu sais, ça, c'est qui est intéressant parce que quand j'ai commencé dans le métier, il y avait beaucoup de joueurs des rangs universitaires canadiens qui étaient là. Puis là, de plus en plus, les joueurs vont jouer collégial ou ils vont jouer prep school, puis ils font le saut universitaire américain. Puis t'as des joueurs surveillés, mais quand on regarde des joueurs à travers le réseau NCAA, que ce soit un gars comme Mathieu Bergeron à Syracuse, un gars comme City Soul qui joue à Eastern Michigan, c'est tous des gars qui sont issus de rangs collégiaux québécois, puis de rangs de secondaires au Québec aussi. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ces deux exemples-là parmi tant d'autres là, qui réussissent à se trouver un chemin et continuer à travailler. Puis pour moi, faut pas que ça passe seulement par le réseau universitaire américain. C'est où est-ce que tu as le meilleur fit pour toi. T'sais, des gars comme Laurent, des gars comme Anthony, Marc-Antoine Decoy qui a eu avec les Packers, Mathieu Betts qui a eu avec les Bears, tu as eu Eli Bouka qui est passé des Dinos avec les Cardinals versus avec les Eagles. Ils ont eu des opportunités dans la NFL issues de rang universitaire canadien. Puis après ça, t'as les Benjamin Saint-Just de ce monde qui ont fait le saut universitaire américain, puis ils ont fait le saut dans la NFL, puis ils connaissent beaucoup de succès. Donc, pour moi, c'est des exemples. Ils sont tous des modèles, des exemples à suivre. T'sais, un gars comme Pierre-Yves Lestage arrive de l'Université de Montréal, puis il va avec Seattle. T'sais, mais ça, c'est tout parmi ça des exemples qu'on doit regarder puis suivre. Puis je pense que chaque joueur doit regarder le chemin qui est propre à lui dans ce qu'il veut réussir, puis que ça soit collégial, prep school, universitaire canadien, universitaire américain, ils ont tous le potentiel de te rendre où ce qu'il faut que tu te rendes, mais tu suis la voie que toi t'intéresses pour ce que tu recherches, puis où est-ce que tu vas avoir la meilleure opportunité d'épanouissement pour toi.
Tu as nommé quelques noms, là, Mathieu Bergeron, en as-tu d'autres en tête, des jeunes qui sont capables d'espérer à la NFL dans les 3-4 prochaines années?
Ah, c'est dans les 3-4 prochaines années, tu sais, c'est sûr que t'en as, t'as un gars comme Jeffrey Quentin-Hercu qui joue à Memphis, t'as Cédric Soule qui joue à Eastern Michigan, tu sais, après ça, pour les années suivantes, je suis pas trop 3-4 ans en avance, malheureusement, c'est tous les joueurs qui jouent là, mais tu sais, t'en vois à chaque année qui réussissent à aller tu sais, percer les rangs, puis tu regardes, mettons, un gars comme Kevin Mittal à l'Université Laval qui connaît du succès avec le Rouge et Or. Tu regardes un gars comme Jonathan Sénécal qui est avec UConn, qui est rendu au Carabin. Je dis pas que c'est tous des gars qui vont à l'NFL. En fait, je suis pas à l'aise de me prononcer là-dessus parce que
mais qui peuvent espérer au football professionnel.
Ben, je pense que oui. Puis les gars, ils se développent. T'as tellement de bons talents au Québec. T'as des joueurs, des gars comme Michael Broderick qui joue à l'Université de Montréal. Puis, tu sais, qui vient de être joueur la semaine dans la RSEQ défensif. T'as tellement de talent puis d'opportunités, puis je pense que c'est juste de regarder c'est quoi le meilleur enchaînement pour toi. Puis tu sais, je veux pas dire que ce joueur-là va à NFL ou va les Canadiennes ou jouera pro, ça on va voir avec le temps, mais c'est juste le fun de voir des Québécois être bien représentés partout sur le continent nord-américain au football, puis de connaître du succès.
Sacha, tu sais, t'es agent de joueur, on le sait, t'as la chance de travailler un peu dans les coulisses là, dans la NFL. Je te connais bien, je sais pas si tu vas vouloir donner des détails là-dessus, mais t'as travaillé avec plusieurs équipes jusqu'à maintenant, t'as parlé à ben des équipes depuis que t'es agent de joueur. Avec quelle équipe c'est le fun de travailler? Avec quelle équipe il y a une belle ambiance, il y a un discours, un dialogue ouvert? Qu'est-ce que tu peux nous dire là, un peu sur ce travail-là justement en coulisses?
Je me considère quand même choyé dans mon expérience, puis il faut dire que tu sais, il y a des grosses agences qui ont des choix de top 5 overall à tous les ans.
Ouais.
Tu sais, c'est une autre dynamique un peu. Moi, dans mon cas, je prends beaucoup de fierté à représenter les joueurs du Québec, du Canada qui veulent percer tant dans la NFL que les Canadiennes. Puis, dans mon expérience, j'ai tellement d'équipes avec qui j'ai eu du plaisir à côtoyer puis à travailler. Puis, tu sais, autant. T'sais, Houston, ça a fini avec une libération, mais Nick Caserio a toujours été quelqu'un qui m'a donné l'heure juste, tout le temps. T'sais, que t'aimes ou que t'aimes pas ce que t'entends, t'as l'heure juste. Puis ça, c'est une des meilleures qualités que tu peux trouver. Un gars comme Ryan Poles, avec les Bears, qui est ancien des Chiefs, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, puis j'étais extrêmement content pour lui de voir qu'on a du succès. Catherine Reich, qui est maintenant avec Cleveland, tu sais, Catherine et moi, on a commencé presque en même temps dans nos rôles respectifs, puis de la voir grandir et de la voir une future DG dans la NFL, c'est une question de temps. Je pense que c'est agréable. Un gars comme Chris Ballard, qui est avec les Colts maintenant, super. Puis, tu sais, les Chargers, je sais que c'est, genre, on en parlait au début, mais c'est un plan professionnel, business. J'ai eu la chance de travailler avec eux, avec Ryan Hunter, puis ça a toujours été très... La communication était bonne, puis il y avait des bonnes discussions. Les Chiefs, évidemment, ça a toujours été professionnel, puis pas facile, parce que Laurent avait beaucoup d'activités avec sa fondation, des levées de fonds, des choses que ça, on en demandait aux Chiefs, on en a demandé des assouplissements au niveau, pas juste des football ops, mais vraiment au niveau de toute l'organisation, le opt-out.
Il voulait avoir le mot docteur sur le nom docteur sur son chandail.
Ah non, ça a pris une proportion. Ça, c'est pour un autre épisode, je pense. Ça a pris une proportion un peu inattendue, mais ça fait en sorte que, tu sais, j'ai eu des belles opportunités, Jets l'année passée avec Laurent, puis tu sais, je suis choyé parce qu'on a eu des bonnes discussions. Je pense que j'ai eu des mauvaises expériences d'arriver avec certaines équipes. Celles-là, je les nommerai pas, mais au final, tu sais, je pense que l'idée, c'est de travailler avec des bonnes personnes. Puis tu sais, à Buffalo, tu as Curtis Rukavina, qui est l'ancien des Argos, qui est rendu à Buffalo, qui monte les échelons aussi. Dan Morgan, l'ancien linebacker avec les Panthers, qui était longtemps avec les Seahawks, après ça les Bills, là les Panthers. Tu sais, moi je suis pas un gros agent nécessairement sur papier aux yeux des équipes, dans le sens que j'ai pas le first overall pick à chaque année, mais ces équipes-là m'ont toujours traité avec le plus grand des respects, puis ils m'ont vu, puis ils me respectent dans le sens, ils savent que j'ai un attachement très particulier avec le Canada puis le Québec, puis que je veux aider ces jeunes-là à réussir. Puis au final, c'est pas une question de où est-ce que t'es repêché. Tant mieux si t'as choix de première ronde, mais si t'es première ronde, deuxième ronde, septième ronde, undrafted, si on peut aider des jeunes du Québec, du Canada, à aller percer plus loin, ben moi, c'est ça qui me stimule dans ce métier-là, puis c'est ça qui m'allume, puis je pense que y a ces équipes-là que j'ai nommées le centre, puis pour moi, c'est vraiment agréable de travailler avec elles.
Ben merci beaucoup, Sacha, pour le temps que tu nous as accordé ce matin. C'était très intéressant.
Oui.
On va te souhaiter une bonne saison. aux Chargers. On va souhaiter que le téléphone sonne. Pour tes gars, puis pour nous aussi, parce que c'est sûr qu'on a du plaisir à suivre les Québécois, même si on aime la NFL, puis on est un peu homer, nous aussi. Là. On aime voir nos gars réussir.
Oui.
Merci beaucoup pour avoir été là.
Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Puis c'est le fun de jaser de foot avec vous autres, puis de pouvoir parler de tout et de rien. Merci encore pour l'invitation. J'ai beaucoup apprécié.